Nous allons donner la parole à Jonathan Siboni pour un état des lieux général, une sorte de panorama global de la question, chiffres et grandes tendances à l'appui. Il est CIO Luxury Insight. À son actif, compte tenu de son jeune âge, il a beaucoup d'expérience. Depuis plus de 10 ans, il est dans le conseil en stratégie. Il enseigne là où il a lui-même été étudiant, c'est-à-dire à l'ESSEC, c'est-à-dire à Sciences Po, mais aussi à Dauphine ou à la Cattolica de Milan. Je vous laisse la parole, Jonathan.
Le premier point, c'est qu'on vit dans un nouveau monde. Un nouveau monde, bien sûr, au sens large, mais aussi un nouveau monde du luxe. Pourquoi ? Parce que vous savez bien que le luxe se nourrit d'une forme d'équilibre ou de complémentarité entre l'image et le business. Et cette complémentarité entre l'image et le business, en réalité, on la voit aussi dans des fonctions qui sont fondamentales dans nos métiers, qui est la complémentarité entre la communication d'un côté et le retail. En réalité, cette complémentarité entre l'image et le business se nourrit de la manière suivante. Depuis des décennies, on crée de l'image pour générer du business. Très simplement. Et non seulement on crée l'image pour générer du business, mais en plus, il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre l'image et le business. C'est-à-dire que parfois, on va faire des efforts qui vont améliorer l'image de la marque en faisant en sorte parfois que ça ne... Comment dirais-je ou en acceptant que ça ne génère pas tant de business que ça. Et parfois, ça va être l'inverse. Investir dans l'image, ça va être faire un défilé. On sait très bien qu'en faisant de la haute couture, on ne va pas gagner d'argent ou peu, mais on va nourrir la marque. Et à l'opposé, parfois, on va investir plutôt pour développer du business, quitte à diffuser ou diluer un petit peu la marque. Ça, c'est les fondamentaux du luxe depuis toujours. On s'y est habitué et ce sont d'ailleurs les bases sur lesquelles toutes les maisons ont construit leur business. Le point important, me semble-t-il, aujourd'hui, et la différence dans le monde qui s'ouvre à nous, c'est que dans cet équilibre où d'un côté, on crée de l'image très forte qui allait générer du business dans le point de vente, eh bien, cette dynamique est en train de changer profondément. C'est-à-dire que cette distinction entre la communication d'un côté et la distribution de l'autre est profondément en train de changer, ce qui amène à considérer le retail naturellement à travers un autre prisme. Qu'est-ce qui a changé ? C'est ça. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, avec l'arrivée d'Internet, tout d'un coup, on n'avait plus besoin des boutiques pour vendre. À l'origine, évidemment, on allait faire des défilés, faire beaucoup de choses, et puis la boutique, le point de retail, était la seule manière de vendre. Donc, on allait se servir du retail pour vendre. Aujourd'hui, vous le savez, Internet ne représente que 8 à 10% des ventes dans le luxe, ce qui est encore relativement raisonnable, même si c'est en forte croissance. Mais le pur retail, c'est-à-dire le retail qui ne se nourrirait pas du digital, le retail de quelqu'un qui passe devant la boutique, qui rentre dans la boutique, qui achète et qui sort, lui ne représente que 20%, 20-22%. C'est extrêmement faible. Avant, c'était 100%. La réalité, c'est que l'écrasante majorité, ce sont des ventes qui se font en boutique, mais qui se nourrissent du digital. Qui se nourrissent du digital parce que quelqu'un a vu un produit sur Instagram, parce qu'il a réservé un produit, parce qu'il a comparé les prix, mais il va effectivement venir dans ce point de vente, dans ce retail, pour transformer son achat. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire que plus de 3/4 des ventes faites en boutique, dans ce point de retail, sont influencées par le digital. Et donc, sont influencées par des outils que vous ne pouvez pas maîtriser en boutique et que vous ne pouvez pas non plus maîtriser si vous ne maîtrisez pas le digital. Du coup, le point de vente qui, à l'origine, était un point de business, qui était un lieu de transformation, devient aussi un lieu d'image, naturellement. Puisqu'aujourd'hui, votre point de vente n'est plus simplement un lieu pour vendre, mais un lieu pour exister, pour diffuser, pour montrer, pour faire l'expérience de la marque, puisque la vente pourra se faire ailleurs, vous l'avez vu, dans le digital. Alors, en quoi le retail, justement, est transformé dans ce nouveau monde ? Bien tout simplement parce que dans le monde précédent, dans le monde que nous avons tous connu, vous aviez un consommateur, des produits et une boutique. La transaction, en réalité, se faisait en boutique et ce monde-là était ce qu'on appelle brand-centric. C'était la marque qui décidait des produits, qui les mettait en boutique et qui était très contente quand le consommateur venait. L'évolution vers un monde client-centric, c'est qu'en réalité, le consommateur va être proactif dans cette dynamique. Il va être proactif à plein d'égards parce qu'à travers la donnée qu'on va collecter, que ce soit en ligne mais aussi grâce au retail augmenté, on va être capable d'être beaucoup plus proactif dans la relation qu'on va pouvoir avec lui et qu'il va pouvoir avoir vis-à-vis de nous, en amenant des expériences qui sont beaucoup plus transversales, beaucoup plus immersives, et qui vont permettre justement de créer ce gros mot qui est l'omnichannel, qui est un mot, à mon sens, qui n'a absolument aucun intérêt. Il a d'autant moins d'intérêt qu'il vient en fait de cette distinction qui est l'offline et l'online. Et cette distinction qu'on a fini par nous rentrer dans la tête est complètement délirante. C'est-à-dire que les gens, pour pousser Internet, ont dit « il y a l'offline ». L'offline, c'est off, c'est-à-dire qu'on a débranché la ligne, quoi. Offline, c'est moins bien que online puisqu'on a débranché. Sauf que le offline, c'est le in-life, en fait, c'est la vraie vie. Vous voyez ? Donc le offline, c'est pas moins bien que le online. Mais c'est juste qu'on a un prisme qui a été déformé par la révolution industrielle dans laquelle on vit. Toujours est-il que cette évolution, cette transformation impacte les marques de luxe et impacte le retail. Elle les impacte à plein d'égards, et c'est ce qui va être évoqué ce matin, de manière bien plus brillante qu'ici. Elle les impacte pourquoi ? Parce qu'en fait, dans un cadre où le consommateur venait simplement, était en bout de chaîne pour acheter un produit, aujourd'hui, on va devoir l'intégrer dans la dynamique. Et c'est ce à quoi va servir le retail augmenté, bien sûr. Il va augmenter ce qu'on va pouvoir offrir au consommateur, mais il va aussi augmenter la relation avec le consommateur et ce qu'on va pouvoir interagir avec lui. Et dans ce cadre-là, on va se servir de ces interactions et de la donnée générée pour adapter, pour co-créer parfois les produits et arriver dans un cadre où quelque part, idéalement, et c'est ce à quoi on aspire, l'online et l'offline, le retail, qu'il soit lui-même online ou offline, n'aura plus vraiment de distinction. D'ailleurs, on va en parler après, mais ceux qui arrivent le mieux sont en général la Chine, tout simplement parce qu'ils ont fait un leapfrog, ils sont arrivés directement en 2020 sans passer par toutes les cases d'avant, et pour eux, ils n'ont pas ces distinctions psychologiques qu'on a nous de dire « Ah, il y a la boutique, mais c'est en ligne, ça c'est compliqué, où est-ce que ça va, pourquoi, puis il faut que je m'augmente ça, etc. » Ils ont compris quelque chose d'extrêmement simple, c'est qu'en fait, Internet comme la boutique se base exactement sur la même logique. Vous avez du trafic, que ce soit dans la rue ou que ce soit sur Internet, et ce trafic, vous allez essayer de le convertir. Point. Très simple. Alors, vous allez le convertir d'une manière ou d'une autre, de la même manière que quelqu'un qui passerait devant la boutique des Galeries Lafayette achètera peut-être Avenue Montaigne. Ça, vous y êtes habitué depuis très longtemps. C'est exactement la même chose. Alors, dans ce cadre-là, bien évidemment, le retail se réinvente. Il se réinvente avec beaucoup de technologies, beaucoup d'approches, de nouvelles approches qui augmentent ce retail. Vous en avez quelques-unes ici. Celle qu'on connaît le mieux, c'est le shop online, pick-up offline, espèce de faux omnichannel, mais vous en avez beaucoup d'autres dont on va parler ce matin, la réalité virtuelle, d'intégration de technologie en boutique, etc., etc., etc. À nouveau, l'exemple, me semble-t-il, en tout cas le point d'inspiration que je trouve intéressant, c'est de se dire que vous avez ici la proportion de consommateurs aux États-Unis qui utilisent Internet sur leur mobile, à peu près 200 millions de personnes. Le nombre de transactions sur leur mobile aux États-Unis toujours, et le nombre de livraisons qui se font à nouveau en milliards. Puis à gauche, vous avez la Chine. Voilà, vous avez la Chine. Donc en Chine, vous avez 11 fois plus de paiements mobiles qu'aux États-Unis, par exemple. Alors qu'il y a 10 ans, vous aviez 80 fois plus d'e-commerce aux États-Unis qu'en Chine. Donc vous passez d'un cadre où vous aviez 80 fois plus d'e-commerce aux États-Unis qu'en Chine à aujourd'hui un cadre où vous avez 11 fois plus de paiements mobiles aux États-Unis. Alors le retail augmenté, effectivement, il prend en Chine un sens tout autre puisqu'on invente, on développe le retail et en même temps qu'on amène le retail augmenté. Ce qui me paraît intéressant dans cette dynamique-là et en introduction aux éléments qui vont suivre, c'est de se dire que dans un monde où on est passé d'une marque au centre, d'un monde brand-centric à un monde qui est client-centric, alors à partir de ce moment-là, la communication et le retail ne peuvent eux-mêmes plus être distingués. Et ça, ça va poser beaucoup de problèmes dans les organisations avec lesquelles on travaille. Pourquoi ils ne peuvent plus être distingués ? Parce que vous avez effectivement d'un côté des plateformes qui sont des plateformes de communication. Instagram, WeChat sont des plateformes de communication. WeChat, c'est pour communiquer avec quelqu'un. Instagram également pour poster des choses. Et de l'autre côté, vous avez des plateformes qui sont plutôt des plateformes de vente. Alibaba vend des produits. Farfetch vend des produits. Ctrip vend des billets d'avion. Oui, sauf qu'aujourd'hui, WeChat va faire des WeChat Store. Puisque comme ils ont du trafic et beaucoup de gens qui sont sur l'application, alors ils vont se mettre à vendre, naturellement. Instagram va développer les InstaShop. Et de la même manière, des plateformes qui sont à l'origine des plateformes de vente, comme Alibaba ou Farfetch, vont vous vendre des bannières et du média, puisqu'ils ont du trafic et qu'ils ont de la vente. Donc ils peuvent transformer cette vente. Très naturel. Et Ctrip, qui vend des billets d'avion, va naturellement vous servir de plateforme de communication pour vos marques vis-à-vis des touristes chinois. Tout ça devient extrêmement naturel, et vous voyez bien que la limite entre la communication et la distribution n'existe plus. Parce que le digital lui-même part de ce même principe qu'on va avoir un trafic qu'on va vouloir convertir, que ce soit à travers de la vente de produits ou de la vente de communication. Ça, il faut s'y habituer, parce que les silos des organisations avec lesquelles on travaille, ou dont vous faites partie, ne sont pas encore adaptés ou habitués à ce type d'évolution. Un exemple que j'ai vu à Shanghai le week-end dernier, mais qui m'a beaucoup plu, c'est le Nike House of Innovation. Donc vous avez ici une boutique de Nike, qui est une boutique très sympathique au demeurant. Vous voyez bien une boutique, donc qui est une boutique pour vendre, et qui en même temps n'est pas là que pour vendre, vous vous en rendez bien compte. Elle n'est pas là que pour vendre, parce qu'en fait elle est là pour vous montrer l'identité de la marque, sa projection, son innovation, sa capacité de personnalisation, la technologie qu'elle va mettre en œuvre tant dans la création de produits que dans votre interaction avec le produit, les personnalisations multiples. Nike n'est pas là pour vendre des tennis. Ce n'est pas le but, je pense. Elle est là pour vous faire vivre une expérience, pour faire que vous rêviez de Nike. Et en fait, cette boutique, qui à la base est un point de retail, donc de vente, n'est rien de plus qu'un point de communication. Si en plus, ils vendent quelques baskets, tant mieux. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle a été inventée. Vous allez pouvoir mesurer vos pas, vous mesurer vous-même, faire plein de choses extraordinaires qui vont changer votre vie. Là, vous avez un exemple parmi tant d'autres du retail augmenté. Le retail augmenté, en fin de compte, c'est un retail qui, certes, est augmenté lui-même, mais qui n'est plus que du retail. Puisque les marques elles-mêmes, si elles veulent survivre dans le monde de demain, doivent, à mon sens, être des marques augmentées.